Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien compagnon. En 2017, 130 femmes sont décédées et près de 220 000 femmes ont subi des violences conjugales. Dans le monde, ce sont plus de 40 000 femmes ou jeunes femmes qui ont été tuées par un compagnon, un ex-fiancé ou un membre de la famille. En général, ces crimes sont précédés de signes avant-coureurs. Et bien souvent, les victimes enduraient des violences depuis des années. 40% des femmes qui ont perdu la vie dans des circonstances en 2017 avaient subi antérieurement au moins une forme de violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique. C'est notre sujet du jour avec nos invités installés sur le plateau d'Africa Radio. Marie Leroy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargée de mission droit des femmes à Saint-Denis dans le 93. Nous rejoint également sur le plateau d'Africa Radio le docteur Amélie Jouot. Merci. Alors, vous soignez des femmes victimes de violences conjugales et vous travaillez pour le planning familial. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question, mesdames, pourquoi certaines femmes restent-elles avec leur conjoint violent? Est-ce que ce qu'on appelle l'emprise psychologique, à elle seule, peut expliquer cela? Bonjour, qui veut répondre à cette première question?
Oui, alors, en effet,
Rapprochez-vous un petit peu du micro.
Comme ça, c'est bon.
Très bien. Oui,
bonjour. Oui, en effet, comme vous dites, beaucoup de personnes restent avec leur conjoint violent. Alors, en effet, on parle beaucoup de l'emprise de ses conjoints sur elle, et c'est totalement vrai. Il y a aussi des raisons qui sont assez pragmatiques, c'est que les violences s'accompagnent beaucoup d'isolement de ces femmes, que ce soit sur le plan professionnel, amical, familial, etc.
Oui.
Et ces femmes-là, étant isolées, ont peu d'endroits où aller et se retrouvent souvent dans une précarité importante, quoi. Et donc les solutions pour elles ne sont pas forcément évidentes pour elles et pour leurs enfants aussi.
Alors, justement, dans le cadre de vos consultations, est-ce que vous rencontrez souvent des femmes victimes de violences conjugales? Et quels sont les types de violences qu'elles subissent, les femmes que vous rencontrez, docteur?
Alors oui, à la Maison des Femmes, évidemment, on rencontre beaucoup de femmes victimes de violences, énormément de violences conjugales. Et en effet, quand on se met à suivre des femmes victimes de violences, on se rend compte qu'elles subissent... toutes les violences, en fait, c'est toujours un cycle. En fait, ça commence plutôt par une emprise, justement, un isolement de ces personnes.
Ouais.
Ensuite, viennent les violences plutôt psychologiques et verbales, où on rabaisse un petit peu la personne et on lui fait perdre confiance en elle. Puis ensuite, les violences physiques,
ouais.
Et qui arrivent d'ailleurs assez fréquemment dans des moments difficiles ou des moments où les femmes sont plus faibles, comme par exemple la grossesse. Et puis ensuite, il y a une période qu'on appelle la lune de miel.
Ouais.
C'est un mot qui est un petit peu bizarre pour dire ça, mais souvent, voilà, là, il y a une espèce de petit retour en arrière, et puis on dit que ça recommencera jamais, puis en fait, ça recommence toujours. Voilà, donc c'est en général, c'est un ensemble de violences, c'est pas un seul type de violence, quoi.
Alors Marie Leroy, est-ce que les femmes que vous rencontrez arrivent à parler des violences qu'elles subissent facilement?
Bien évidemment, avec un accompagnement approprié, c'est effectivement très très long.
Oui.
Mais ce que j'ai envie de dire sur la question des violences, c'est que c'est vraiment un fléau planétaire. Il n'y a pas un continent, ni un pays ou monde où les femmes ne subissent pas des discriminations, des agressions, des lapidations, des mutilations, des défigurations, des violences sexuelles, des oppressions, et ça... on le retrouve dans tous les milieux sociaux.
Ouais.
Alors nous, à Saint-Denis, on a mis en place tout un tas de dispositifs pour accompagner ces femmes. Consultation de victimologie, atelier de psychomotricité. Nous avons des partenaires qui sont le Centre d'information du droit des femmes et des familles, donc des juristes,
ouais,
qui accompagnent les femmes. Pour ma part, j'anime un réseau de lutte contre les violences envers les femmes avec tout un tas d'acteurs où on va retrouver la police, des acteurs de prévention, des assistants sociaux. Enfin, on œuvre, je veux dire, au quotidien pour mieux accompagner ces femmes. Et évidemment, la parole, elle se libère.
Ouais.
À partir du moment, et c'est quelque chose qu'on défend, à partir du moment où on pose la question à madame en lui disant « Madame, avez-vous subi des violences ?» Mathilde de Lespine en parlera mieux que moi, de ce questionnaire systématique. Eh bien, les femmes parlent. la question, c'est comment
on se sent en confiance.
Voilà, et comment on accompagne cette parole. Et parfois, elles ne sont pas prêtes à déposer plainte.
Ouais.
Parfois, elles ne sont même pas prêtes à aller voir une psychologue. C'est un cheminement, c'est extrêmement long. Il y a évidemment cette question de l'emprise psychologique.
Ouais.
Les femmes ne sont pas égales par rapport aux violences. C'est évident que quand on n'a pas de papier, quand on n'a pas de travail, quand on est dépendante du mari par rapport au logement,
ouais.
Il y a la question d'isolement dont on a parlé, eh bien, le cheminement va être beaucoup plus long.
Peut-être le poids de la famille, du regard de la famille, de la société.
Oui, de la société. De la société, de l'environnement. Il y a des femmes qui sont effectivement très isolées parce qu'elles arrivent d'ailleurs. La famille n'est pas forcément là. Donc du coup, il n'y a pas de soutien possible. Et puis elle n'ose pas le dire parce qu'il y a une espèce de honte. Comment dire à sa famille, comment dire à ses parents qu'on vit avec un homme violent. Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis on voit bien que les ressources, on les trouve aussi dans son histoire et dans son éducation.
Mmh.
Et au travers des femmes que j'ai pu rencontrer, je me suis rendu compte que les femmes qui avaient été scolarisées dans leur pays d'origine, qui avaient un bon niveau de langue, voilà, qui avaient un travail, ça allait être plus simple dans la durée. Mais de toute façon, l'emprise, ça peut durer 10, 15, 20 ans. Hein. Donc,
alors, oui, alors je vais d'abord vous demander de vous munir de vos casques pour entendre le petit témoignage d'une militante associative. Elle est au Cameroun, c'est Mino Christelle. Elle a été victime de violences conjugales en 2016. Elle va nous raconter son histoire tout au long de cette émission. Première partie où elle nous raconte cette époque où elle quitte le Cameroun pour s'installer à Cotonou, au Bénin, avec son conjoint. Elle raconte son histoire, parle des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies. On écoute la première partie de son histoire, on se retrouve juste après.
La violence, en fait, se produit quand j'ai commencé à découvrir des infidélités. Et après avoir été plusieurs fois victime de violences psychologiques, économiques, parce que j'étais allée m'installer dans un pays que je ne connaissais pas, j'avais que lui en majorité en contact, j'ai décidé la nuit du 23 novembre 2016 de fuir et j'ai fait une semaine dans la rue et donc ce qui fait en sorte que après ça, j'ai pu être contactée par mes parents à Abidjan. Et depuis 3 ans, j'essaye de me reconstruire petit à petit parce que c'est pas évident, parce que on croit souvent que quand on sort des violences conjugales, quand on quitte la personne, c'est là où ça finit. Alors que maintenant, on fait face à des traumatismes extrêmement violents. Il y a une certaine violence verbale. Mais c'était pas vraiment fort. Les violences verbales et psychologiques ont commencé après la gifle. Les violences sociales, c'est-à-dire en fait que ça fait partie des violences psychologiques. Pourquoi ? Parce que j'avais une interdiction, par exemple en fait de recevoir des personnes à la maison sans son consentement, sortir n'importe comment sans son consentement. Il y a commencé à avoir un petit isolement, c'est-à-dire en fait que moi qui suis quelqu'un d'assez libre qui le savait, lui le savait, il y a eu quand même un confinement petit à petit quand même.
Alors Mathilde Delpine, vous venez nous rejoindre, vous êtes coordinatrice de l'unité violence faite aux femmes de la Maison des Femmes à Saint-Denis, également dans le 93. Alors on entend l'histoire de cette militante associative, Mino Christelle, on voit que c'est tout un cheminement, on voit qu'il y a des étapes par lesquelles elle est passée. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation. Donc oui, elle est passée par plusieurs étapes.
Et mettez-vous bien en face du micro.
Elle dit bien que les violences psychologiques sont arrivées plutôt après la première claque. Et peut-être que les violences psychologiques d'avant la première claque étaient insidieuses et étaient difficiles à repérer comme des dévalorisations, mais à bas bruit,
ouais.
De l'isolement, mais sous couvert de bienveillance. Tu n'as pas besoin de travailler, ma chérie. Enfin, je ne sais pas. Hein, mais et c'est vrai que c'est le propre des violences psychologiques, c'est qu'elles ne sont pas toujours faciles à repérer.
Ouais.
Contrairement aux violences physiques, une claque. C'est un peu plus facile de dire là, c'est pas normal. Quoique, nous, on a des patientes qui nous disent qu'elles n'étaient pas au courant que tous les conjoints n'étaient pas comme le leur, c'est-à-dire avec le fait d'imposer des rapports sexuels plusieurs fois par jour, ou
ouais.
même de frapper. J'ai des patientes qui me disent, mais tous les hommes boivent le soir et deviennent violents et frappent leurs femmes.
Et elles pensent donc que c'est normal.
Qu'il n'y a pas d'autre choix que de subir, en tout cas, puisque c'est la norme et oui. Exactement.
Alors, est-ce que les femmes victimes d'agressions physiques ont été, dans un premier temps, la cible d'attaques verbales ?
Pour moi, il n'y a pas de violence physique et sexuelle s'il n'y a pas de violence verbale, puisque les violences verbales, elles ont pour rôle, dans la tête de l'agresseur, hein, d'isoler, de dévaloriser, de faire perdre la confiance en soi et faire, en fait, le fait de désarmer la personne qui va ensuite subir des violences physiques et sexuelles. Ouais, ouais. Et donc, une fois que les violences physiques et sexuelles arrivent, bah là, ça devient très compliqué de réagir puisqu'on a déjà perdu tout ce qui aurait pu nous aider à nous défendre, notre réseau social, nos proches, une indépendance économique, et puis le fait de savoir au fond de soi qu'on ne mérite pas ça. Et donc le travail de sape psychologique préalable, il va être le socle en fait, et c'est pour ça que c'est très compliqué de s'en sortir si on n'est pas soutenu. Ouais. Par des proches, par des professionnels, et c'est pour ça que les femmes restent. Ce n'est absolument pas parce qu'elles aiment ça, ou même parce qu'elles seraient... amoureuses de leur conjoint. C'est vrai que parfois certaines femmes nous disent oui mais je l'aime, et quand on réfléchit avec elles, qu'est-ce qu'elles aiment, bah, ce qu'elles aiment c'est ce qu'il a été au début mais pas ce qu'il est aujourd'hui, et
elles ont un peu de mal à se situer par rapport à leur sentiment.
Bah, le propre de la violence c'est de mettre le brouillard dans le cerveau et dans la tête, dans la pensée de la personne victime, donc oui elles sont souvent perdues. Mais l'autre jour j'ai une patiente qui avait des étoiles dans les yeux en me disant ça y est j'ai compris que c'est pas ça que j'aime chez lui, que c'est pas la violence. C'est ce qui m'a fait rêver au départ, c'était le début de la relation. Et elle était soulagée d'être rassurée sur le fait que bah non, elle aime pas la violence et qu'elle est pas dysfonctionnante.
Alors justement, c'est la deuxième partie du témoignage de Minou Christelle. Elle est restée silencieuse concernant ces violences. Elle n'en a parlé à personne et elle évoque une honte, la honte qu'elle ressentait. On l'écoute.
J'ai rien dit à ma famille parce que j'avais honte. Donc la plupart du temps, quand on est victime comme ça, on s'enferme. Déjà parce qu'on passe par la phase déni en fait. On a le côté déni parce qu'on n'arrive pas à... On n'arrive pas à accepter que la personne que l'on aime en fait est en train de nous faire du mal. On refuse d'accepter ça. Et après, il y a quand même, avant que commence cette stratégie de l'agresseur, il y a quand même un passif où vous avez été amis, parce qu'on était de très bons amis avant, c'était mon confident, c'était bref, quoi. C'est-à-dire, si j'ai accepté de tout laisser tomber pour aller vivre avec lui, c'est parce que je lui faisais confiance. Donc, il y a une grosse honte. Moi, j'ai eu honte, en tout cas, d'en parler. Et aussi, je me disais que, bon, c'est pas grave, je contrôle encore, et puis, petit à petit, ça va revenir. En avant. Donc il y a un gros déni et il y a aussi cette honte-là.
Alors on va essayer d'avancer un petit peu parce que le temps passe très vite. Alors peut-être docteur Amélie Jouot, quelles sont les conséquences sur la santé de ces femmes? Quelles sont les conséquences de ces violences physiques, verbales ou sexuelles?
En effet, il y a des conséquences un peu sur tous les plans. On peut faire des certificats par rapport à tout ça. Hein. Il y a des symptômes psychologiques, en effet, de l'angoisse, de la dépression, oui. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de la confiance en soi, des dépressions qui sont des grosses dépressions, des troubles de panique, des troubles de l'adaptabilité en société, oui, par exemple. Et puis sur le plan physique, on sait que les personnes qui subissent des violences ont beaucoup plus de maladies, notamment chroniques, que les autres. Et puis des symptômes physiques qui sont pas forcément observés, mais qui vont avoir des douleurs multiples. Elles vont avoir des troubles de...
Peut-être Marie Leroy, vous voulez compléter un peu le propos d'Amélie?
Il y a un problème après de repérage dans le temps et dans l'espace. C'est extrêmement compliqué parce que elles sont finalement perdues. Moi, je vois bien la difficulté qu'on a à donner des rendez-vous, par exemple, pour travailler le lien social. On travaille beaucoup sur la question de l'accompagnement culturel pour redonner de l'estime de soi. Moi, j'ai vu des femmes qui n'y arrivent pas parce que c'est trop compliqué d'être à l'heure, d'être là le bonjour. Il y a la question, évidemment, quand il y a des enfants, des enfants qui sont effectivement des co-victimes. Alors là, les conséquences, elles sont terribles parce que c'est échec scolaire. On va avoir des enfants ou totalement mutiques ou extrêmement violents, qui protègent parfois les mères ou qui sont boucliers. Et donc, les conséquences sont multiples et donc ça a des effets sur la question de la santé, mais sur la réussite scolaire des enfants, sur la défaillance éducative, parce qu'elles peuvent pas, ces mamans là, je veux dire, prendre en charge leurs enfants. Moi, j'ai rencontré une dame qui avait été séquestrée pendant 10 ans. Je veux dire, elle n'était pas capable de prendre le RER. Et en même temps, il y a eu un déclic. On a été ensemble à Paris. Et donc là, il s'est passé quelque chose, mais ça a pris 10 ans.
Oui, allez-y.
Aussi des conséquences sur la grossesse et sur toute la période périnatale, mais même aussi avant, sur la santé gynécologique. Il y a des conjoints qui interdisent la contraception, qui imposent la contraception. Il y a beaucoup, il faut penser violence sexuelle quand on pense violence conjugale, vraiment avoir en tête que déjà une femme sur cinq en France a subi des violences sexuelles au cours de sa vie, et qu'un rapport sexuel n'est pas forcément consenti. Ça, c'est vraiment important, et donc il y a un contrôle sur la fertilité de cette femme. On lui impose comment on couche avec elle, et on lui impose ce qu'elle fait de la grossesse. Donc Amélie pourra vous le dire, mais il y a beaucoup de demandes d'IVG liées à de la violence. Généralement, dans les études, un quart des demandes d'IVG ont comme origine une violence, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis au niveau de la grossesse, il faut bien avoir en tête que dès la vie intra-utérine, le fœtus est impacté.
Ouais.
Parce que la mère sécrète beaucoup trop d'adrénaline et de cortisol, qui sont des hormones du stress.
L'enfant ressent le stress. Donc
ça peut impacter son développement neurologique. Et donc, c'est pour ça qu'après, il a du mal à grandir, il a du mal à apprendre. Le premier des risques pour les enfants, c'est pas de reproduire à l'âge adulte. Le premier des risques, c'est là, quand il est enfant, de ne pas pouvoir grandir, parce qu'il va pas avoir les mêmes chances au niveau développement neurologique, connexion neuronale, etc.
Il va nous rester 5 minutes, on va essayer d'apporter des solutions, des pistes. Que faire alors, lorsque l'on est victime de violences? Est-ce que vous poussez ces femmes à porter plainte, par exemple? Peut-être que c'est la dernière étape, parce que le processus doit être aussi long pour qu'elles puissent prendre leur vie en main. Alors, que faire lorsque l'on est victime de violences?
Je dirais la première chose, c'est d'en parler. En parler à la personne en qui on a confiance. Nous, évidemment, on les encourage à déposer plainte pour être protégées.
Ouais.
Mais pour ça, effectivement, il faut qu'elles aient remis la responsabilité au bon endroit, qu'elles soient conscientes que si elles ont subi des violences, c'est uniquement la responsabilité de la personne qui a posé l'acte de violence et jamais la leur. Et ça, c'est un gros travail parfois. Et puis que si jamais monsieur aura des ennuis avec la justice, c'est pas à cause de leur révélation, c'est à cause des faits de violence qu'ils ont posés. Donc effectivement, en fonction de la durée de l'emprise, ça peut être plus long, et donc c'est pour ça que le certificat médical descriptif que tous les médecins, sages-femmes, mais aussi dentistes, quand il y a des lésions au niveau de la sphère ORL, peuvent faire, va être déterminant, parce que ça va permettre à la femme de comprendre qu'elle commence à avoir des éléments matériels, des preuves, et donc elle va se sentir potentiellement plus crue, parce que si les personnes ne vont pas vers la plainte spontanément, c'est qu'elles ont honte, qu'elles se sentent aussi coupables, mais aussi qu'elles ont très peur qu'on ne les croie pas. Donc voilà, prendre la parole, appeler les numéros verts, qui sont dédiés à ça, et écouter aussi des témoignages d'autres femmes victimes, soit en allant dans des groupes de parole, soit en écoutant dans la presse, ou voilà, pour se rendre compte qu'elles ont subi la même stratégie de l'agresseur, elle en parlait, votre témoin, et les mêmes processus progressifs, et que donc le problème ne vient pas d'elles, qu'elles réagissent comme elle peut à la violence, qu'elles ont des troubles post-traumatiques, mais que ça, c'est normal quand on a subi des violences, donc c'est pas elles qui sont dysfonctionnantes. Et ça, on leur redit en consultation, vous fonctionnez normalement, tout ce que vous décrivez, c'est normal, n'importe quel être humain aurait subi les mêmes violences que vous, aurait les mêmes conséquences, à peu près. Et donc, voilà, ce qui n'aurait pas dû arriver, c'est que vous soyez victime de ces violences, c'est que vous ne soyez pas protégé. Mais maintenant, quand vous êtes dans une structure comme la nôtre, ou dans d'autres structures, ou quand vous êtes au bout du fil d'un numéro vert, vous êtes entre de bonnes mains, et on va vous donner les pistes pour que vous puissiez avancer.
Marie-Leroy ?
Je ne sais pas trop quoi rajouter, peut-être donner les numéros verts. Alors, il y a effectivement le 3919.
Violence femme info.
Oui, je pense au viol information. Viol femme information 0800 05 95 95. Et puis nous, effectivement, sur le territoire à Saint-Denis, on a édité une petite carte qui s'appelle Stop aux violences contre les femmes, où on va retrouver le numéro du commissariat, de la maison des femmes, de la maison de la justice et du droit, et puis des différentes permanences que nous avons à l'échelle du territoire. Et ça, toutes les collectivités devraient le faire, c'est très très important.
Ouais.
Il faut afficher dans tous les lieux publics les numéros d'urgence. L'année dernière, à Saint-Denis, avec Ernestine René, qui est la responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes, on a formé tous les acteurs des logements sociaux de Pleine Commune Habitat, qui est un très très gros bailleur, hein, ouais. C'est 20 000 logements sur le territoire. Ils ont tous été formés avec cette idée qui est au moins l'affiche 39-19 dans les loges, et que les gardiens, enfin tous ces gens qui travaillent au quotidien dans nos quartiers d'habitat collectif, bah, puissent apporter une information quand ils... Voilà, quand ils sont témoins d'une violence. Voilà.
Ne pas hésiter aussi à en parler à son médecin traitant lors d'un rendez-vous à la PMI, par exemple, le planning familial. C'est important aussi de le rappeler aux auditeurs, docteur Amélie Ajouot.
Oui, voilà, le planning familial, c'est... Et pas que là, d'ailleurs, tous les professionnels de santé sont là aussi pour ça. C'est l'occasion de dépister les violences et de poser systématiquement aux femmes la question, comme on pose les autres questions sur les antécédents médicaux, etc., parce que les femmes ne vont pas spontanément venir vers vous et vous dévoiler ça. Et puis au planning familial, eh bien, on peut aussi aider les femmes en demande d'IVG, les aider par rapport à la contraception, ouais. Parce qu'on peut avoir une contraception qui ne se voit pas, ouais. Le mari, et qui peut donc leur être très utile. Voilà, c'est aussi ça notre travail.
Il reste une minute, je vais vous la laisser à Mathilde Delphine. Comment on pourrait conclure l'émission ?
Bah, s'il y a des femmes qui nous entendent, donc en France, il y a une plateforme de révélation des violences en ligne avec des gendarmes et des policiers formés. Ouais. Donc si on a peur de se déplacer au commissariat, vraiment, il faut l'utiliser. Elle est en place depuis une grande année et voilà, ça, c'est vraiment très important. S'il y a des femmes qui ne sont pas en France, voilà, il y a des mouvements de libération de la parole internationaux désormais. Il y a des femmes extrêmement courageuses qui ont osé prendre la parole. Donc, je pense se rapprocher d'elles, se rapprocher effectivement des professionnels de santé et surtout, si on n'est pas dans un état encore de droit ou que la justice est assez arbitraire, qu'elle ne protège pas correctement. En France, on a du progrès à faire, mais ailleurs aussi, et ben voilà, faire constater les preuves par des professionnels de santé, je pense qu'il n'y a que ça qui peut aider à protéger les femmes.
Merci à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation le plus à la grande matinale. C'est terminé, Ambiance Africa, ça arrive dans quelques minutes. C'est la pause, en attendant, on se retrouve juste après, bougez pas.